réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Isabelle et j'ai été plusieurs années juge d'instruction, juge des libertés et de la détention et aujourd'hui présidente de cour d'assises. Ce que je souhaiterais vous faire partager, c'est une jeune fille étudiante est retrouvée un matin, assassinée dans un bosquet. Son corps a été violé. Ses parents, bien sûr, sont effondrés. Une enquête est diligentée. Différents garçons qui avaient pu la connaître sont interrogés, sont même gardés à vue. Mais aucun élément ne permet de confondre l'un d'entre eux. Donc l'information dure plusieurs années, mais impossibilité d'identifier un coupable. Donc au bout de quelques années, le dossier est classé. Et depuis quelques années, les gendarmes exploitent les traces ADN qu'ils conservent dans des fichiers. Il se trouve que un individu déjà condamné pour viol est identifié par son ADN résidant sur une trace retrouvée sur un des effets personnels de la jeune fille. Et cela, 17 ans après les faits. Les gendarmes vont interpeller cet individu. Ils se rendent compte à ce moment-là qu'il est invalide, il est sur un fauteuil roulant, car 8 ans auparavant, il a été victime d'un accident cardiovasculaire. Il est interpellé, présenté au juge d'instruction qui le met en examen et puis devant moi qui suis à l'époque donc juge des libertés et de la détention. Lorsqu'il arrive devant moi, il dit qu'il ne se souvient de rien. Il a du mal à s'exprimer avec des difficultés d'élocution. Néanmoins, je sais que je n'ai pas le choix. Les faits qui lui sont reprochés sont d'une telle gravité que le mandat de dépôt s'impose dans une affaire comme celle-là. Son avocat plaide bien sûr son état de santé. Bon, finalement, il part tout de même en détention dans une maison d'arrêt donc qui peut l'accueillir. Une année s'écoule. Pendant ce temps-là, le juge d'instruction continue les investigations, essaye de retrouver éventuellement des témoins qui pourraient corroborer cet élément donc, qui a été découvert. Il interroge bien sûr le mis en examen qui n'en dit pas plus. Et au bout d'un an, je dois statuer de nouveau pour prolonger sa détention provisoire. Puisque en matière criminelle, un mandat de dépôt est valable un an. Ensuite, il doit être prolongé ou non à l'issue d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. Et le jour du débat, les policiers qui escortent ce détenu viennent me voir et me disent qu'ils ne pourront pas l'amener à mon bureau car il est dans un lit. Ce qui veut dire que son état s'est dégradé, il est complètement impotent. Et mon bureau était situé au troisième étage, donc impossibilité de venir jusque-là. Donc nous avons dû organiser le débat contradictoire dans une salle d'audience au rez-de-chaussée. Et je n'oublierai jamais l'image de ce lit, franchir la porte de la salle d'audience, s'approcher de moi. J'ai tout juste aperçu une silhouette. J'ai procédé au débat contradictoire en donnant la parole au procureur de la République, à l'avocat, en lui donnant la parole en dernier. Il n'a rien dit. Et je me suis retirée pour délibérer. Alors là encore, gravité des faits exceptionnels, un trouble à l'ordre public persistant. Vous savez, ça fait partie des critères du placement et du maintien en détention provisoire. Une jeune fille de 20 ans assassinée, violée, c'est un des actes les plus graves qui puissent être commis dans notre société. Donc là encore, je me suis dit que je n'avais pas le choix et que je devais le maintenir en détention provisoire. Il n'empêche que ce jour-là, peut-être pour une des seules fois dans mes 30 ans de carrière, je me suis dit que j'aurais préféré peut-être exercer un autre métier. Certes, la décision était justifiée, mais je n'ai pu m'empêcher de me demander quel sens la peine avait pour cet homme ce jour-là. Donc ma mission s'est arrêtée là. Ensuite, j'ai été d'ailleurs nommée à un autre poste, mais j'ai su qu'il avait été condamné par une cour d'assises, donc à la réclusion criminelle à perpétuité. La loi est faite par les hommes pour les hommes, donc l'humanité est au cœur de la loi, l'application de la loi. C'est pourquoi je pense que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions, de ne pas dormir toujours très tranquillement, même si nos décisions sont juridiquement fondées et humainement acceptables, puisqu'il y avait le décès d'une jeune fille dans des conditions atroces. Mais la réalité qui s'offrait à moi ce jour-là était terrible aussi.